Nul ne pouvait lui reprocher la moindre défaillance à ses devoirs de mère adoptive. Gilberte n'avait jamais manqué de nourriture, de soins, de beaux vêtements, de bons exemples. C'est plutôt Charlotte qui se trouvait sacrifiée. À elle d'achever les chaussures demi-usées, les jupes, robes, tabliers de seconde main, cependant que l'aînée se pavanait toujours dans du neuf. Tout cela explique la querelle des confitures. Quelques semaines après cet incident, Gilberte surprit sa jeune sœur le nez dans un bocal, en train de se gorger clandestinement de marmelade. « Chipeuse et gourmande, » fit-elle avec dédain, « mais je ne te dénoncerai pas. Tu serais trop contente d'avoir de moi mauvaise opinion, de pouvoir me traiter de moucharde. » L'autre resta un moment interdite. Puis elle répliqua, le poing brandi, « D'accord, je l'ai chipée, mais du moins, moi, je la mange avec une cuillère. Et une grande encore !» La seule vengeance de Gilberte fut de mettre sa demi-sœur en acrostiche. Elle glissa le huitain sous la porte qui séparait leurs deux chambres. « Cherchez qui a mangé la confiture avec une cuillère d'argent dorée. Regardez par le trou de la serrure, la réponse aussitôt vous la saurez. Oh, que le bocal fut petit, ma mère. Tu devrais bien les choisir plus profonds. Trois petits tours, les langues font, 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 et les absents vont se faire l'enlair. » Charlotte ne doutait pas qu'un jour, sa sœur ne publiât ses œuvres complètes, qui, par ce poème abominable, la salirait devant la postérité. Elle en pleura toute la nuit. Les saisons passaient. À chacune, Gilberte devenait un peu plus demoiselle, tandis que Charlotte demeurait enfant. À l'école, son esprit restait fermé comme un bourgeon tardif. « Trop sec », écrivait l'institutrice en marge de ses brèves compositions françaises. La feuille blanche qu'elle devait remplir lui inspirait une sorte de vertige. Gilberte avait reçu tous les dons qui brillent, l'imagination, la sensibilité, la facilité verbale. Il ne restait à sa suivante que la terne mémoire. Elle y entassait avec fureur l'histoire, la géographie, les règles orthographiques. Elle se regardait dans les glaces et s'y trouvait bête, comme si cela se voyait. « Tu as le nez bête, le menton bête, les joues bêtes », faisait-elle en se tirant la langue. « Jamais tu ne deviendras institutrice. » Car, naturellement, elle ambitionnait de suivre les traces de sa sœur. Auguste, d'ailleurs, l'y encourageait.
« Si vous étiez des garçons, je vous associerais à ma fabrique. Mais il ne convient pas à des femmes de diriger des hommes, surtout des couteliers. Alors, pensez plutôt à l'enseignement, ou aux finances, à la rigueur au PTT. »
Toujours la loi salique. Elles grandirent ainsi, côte à côte, se tolérant. Gilberte un jour annonça que dans ce village de la Garandie, à 1000 mètres d'altitude, entre Mont-d'Or et Mont-Dôme, elle avait trouvé un candidat à sa main. Un éleveur, précisa-t-elle, héritier d'une grosse ferme et d'un important troupeau de vaches rouges.
Je l'ai accepté, en le jouant à pile ou face.
À pile ou face. Le comble de la désinvolture.
« Mais si la pièce était tombée de l'autre côté, tu aurais renvoyé ce garçon ?»«
Naturellement. »« Alors tu ne l'aimes pas. »«
Il existe des mariages sans amour, j'en connais. »
Mais Alexis insistait tellement. Ce mariage semblait lui faire si grand plaisir. Et moi, je ne pouvais plus supporter la solitude. C'est un garçon tout simple, mais dont je ferai ce que je voudrais. »
Gilberte pouvait tout se permettre.
« Ah, ce n'est pas moi, ruminait Charlotte, qui refuserait un parti à la légère. Mais personne ne me demandera jamais. Je resterai vieille fille. Je partagerai ma vie entre un géranium et un chat noir. »
Les pitelés de Thiers montèrent faire la connaissance des Cratadex de la Garandie. Les accordailles furent facilitées par le fait qu'Auguste et le père d'Alexis découvrirent qu'ils avaient servi tous deux dans les chasseurs alpins, l'un à Modane, l'autre à Briançon,
et s'étaient trouvés sur les mêmes champs de bataille. Ils évoquèrent le linge, la somme et tout ce qui s'ensuit. Joseph Gratadex avait eu l'incroyable chance de passer quasi sans dommage à travers une rafale de mitrailleuse. Une balle lui avait creusé la nuque légèrement, tandis que l'autre lui emportait la pointe du nez.
« Ça tombait bien, » expliquait-il en riant.
« Moi, je le trouvais un peu long. De cette manière, elles m'ont rectifié le portrait. »
Il faisait tâter de l'index les deux sillons. On poussa là-dessus des « oh !» des « ah !»
Sur le chapitre des accordailles, Auguste s'expliqua clairement.
« Ma fille est majeure. Elle peut donc épouser qui lui plaît. Mais je ne lui donnerai pas un sou de dot si elle ne se marie pas avec un garçon travailleur, qui ait un bon métier entre les mains.
« Lui ?» se récrièrent les Gratadex.
« Il sait tout faire de ses doigts.
Suffit qu'il veuille. »«
Tant mieux. Seulement, est-ce qu'il voudra ?»«
Oh !» fit modestement l'intéressé.
« Dans un ménage, il y a tellement de bricoles à faire. Quand la femme travaille à côté, il faut bien que quelqu'un s'occupe du bois cassé, de la cuisine, du jardin, je sais pas, des fusibles qui sautent, des chaises à rempailler. »
Oh, les fusibles ne sautent pas à chaque instant. Les chaises, ça n'occupe pas une vie.
Est-ce que par hasard vous choisiriez en guise de profession d'être seulement le mari de l'institutrice ?»
Gilberte écoutait cette discussion avec peu d'intérêt. Alexis était le seul garçon présentable de la paroisse. Il avait les yeux bleus, les épaules larges, de jolies moustaches, les lèvres chaudes, les mains fines pour un paysan. « Si nous ne nous accordons pas, on divorcera, voilà tout. Et puis je ne finirai pas mes jours à la Garandie. Tôt ou tard, je serai nommé en ville, à Thiers, à Issoire, à Clermont. Il y trouvera bien un emploi, que diable !»«
Je suis cordonnier !» s'écria soudain Alexis, se frappant le front comme si ce détail lui était sorti de la mémoire.
« Parfaitement !» confirma Joseph au nez raccourci. « À Belfort, pendant son temps, il a appris ce métier. C'est lui qui réparait les godillots. » Le visage d'Auguste s'épanouit.
« Eh bien voilà ! Que ne le disiez-vous plus tôt ? Cordonnier, c'est honorable. Presque autant que coutelier. »
On entra dans les détails. Alexis aurait sa petite échoppe dans le village, avec une enseigne, peut-être une botte en zinc. Comme il n'existait aucune cordonnerie avant Murols, on lui apporterait des souliers à réparer de 4 lieues à la ronde. Souriant, le futur gendre approuvait de la tête. Joseph s'engagea à payer de sa poche le banc, le pied, le billot, tous les outils nécessaires. La noce se ferait à Thiers, au pays de la fiancée. Chez les Pitelets existait l'usage d'une certaine cagnotte, alimentée par des économies, des pourcentages, des bénéfices inattendus. Ce casuel devait être partagé entre les filles au jour de leur mariage, pour couvrir leurs frais de parure. Alors, Francine fit une proposition surprenante.
« Que Gilberte utilise toute la somme. »«
Toute ?»
s'étonna Auguste.
« Il ne sera pas dit que je n'aurais fait mon devoir qu'à moitié envers la pauvre orpheline. »
« Tu es vraiment une femme de devoir. »«
J'ai de l'affection pour cette petite, quoi qu'on en pense. Même si je ne parle pas de mon amitié, si je ne fais pas de tintamarre. »
Ce n'est pas la vache qui branle le mieux la queue qui donne le plus de lait.
Je n'ai rien à me reprocher.
Certainement. Mais Charlotte,
elle a 9 ans de moins que sa sœur, ça représente bien des cotisations avant le jour de ses noces. Et dorénavant, elle n'aura pas à partager.
Gilbert eut donc un mariage auquel rien ne manquait. Cela se fit en février, au temps du carnaval, sous un ciel bleu inespéré. Le repas eut lieu dans une auberge de campagne, à Courty, sur les rives de la Dore. Carrefour ferroviaire dû au baron de Barente. Ils l'avaient obtenu pour desservir leur château. Les invités y affluèrent donc par voie ferrée. Ceux qui descendaient des Monts d'Or avaient dû partir la veille, prendre l'autobus jusqu'à Clermont, le train jusqu'à Thiers, dormir chez les parents.